Bonjour, merci d'écouter RFI. Il est 4h à Paris, 2h en temps universel.
Théo Renaudon.
À la une de l'actualité, en France, la Cour d'appel de Paris vise l'été 2026 pour le procès en appel de Marine Le Pen, condamnée pour corruption en première instance. Une décision favorable à Marine Le Pen lui permettrait de se représenter aux élections présidentielles de 2027. Jusqu'où ira Donald Trump dans sa guerre commerciale ? Réponse très bientôt, le président américain doit dévoiler ce mercredi les droits de douane qu'imposeront les États-Unis d'Amérique à ses partenaires commerciaux. Et puis enfin, beaucoup de musique sur RFI ces deux derniers jours, l'audiovisuel français public est en grève contre un projet de réforme. En France, ce sera donc peut-être pour l'été 2026. La Cour d'appel de Paris envisage un nouveau procès à cette date dans le dossier de la condamnation de Marine Le Pen, ce qui voudrait dire une décision rendue avant l'élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen pourrait donc se représenter aux élections présidentielles françaises, mais seulement dans l'éventualité où ce nouveau jugement lui serait favorable. C'est une très bonne nouvelle, a réagi l'intéressé condamné ce lundi pour corruption à 5 ans d'inéligibilité. Furieuse après sa condamnation, Marine Le Pen veut mener sa riposte sur plusieurs fronts, et notamment en changeant carrément la loi. L'idée d'une modification de la loi sur la fameuse exécution provisoire fait irruption. Raphaël Delvolvé, ce sujet permet d'identifier les formations politiques à l'aise ou mal à l'aise avec le jugement visant la chef des députés RN.
En bon allié de Marine Le Pen, Éric Ciotti propose un texte pour abroger l'exécution provisoire en matière d'inéligibilité.
C'est un véritable scandale démocratique que nous voulons corriger.
Au MoDem, dirigé par François Bayrou, troublé par le jugement de lundi, le député Bruno Fuchs pèse déjà le pour et le contre.
C'est intellectuellement difficile d'imaginer qu'on puisse être mis hors course alors même qu'on n'est qu'en première instance. C'est un vrai débat pour un législateur.
Parmi ceux ouverts à la réflexion, on retrouve de tout. Il y a la droite, mais aussi l'insoumis Éric Coquerel sur les bancs de la gauche radicale.
Toute peine peut valoir recours. S'il devait y avoir une proposition de loi qui modifie ça, on l'examinerait.
Les macronistes, eux, sont très sceptiques. Leur chef, Gabriel Attal.
Prenons garde à ne pas donner le sentiment aux Français d'un monde politique qui ne se préoccupe que de ses affaires.
Quand les socialistes, eux, sont en désaccord total, c'est les nervieux.
Il est hors de question qu'on modifie la loi pour protéger Madame Le Pen de ses propres responsabilités. Si on a un arsenal juridique qui a évolué, c'est précisément parce qu'il y avait un sentiment d'impunité vis-à-vis des représentants politiques.
Le cas Le Pen bousculera-t-il l'agenda parlementaire ? Si une majorité se dégageait, cela n'aurait pas d'effet sur le jugement, mais pourrait envoyer un signal au juge du procès en appel, dont la décision est attendue à l'été 2026.
Une terrible odeur de putréfaction, l'odeur de la mort, c'est ce que rapportent les témoignages qui nous parviennent de Birmanie 5 jours après le séisme. Un nouveau bilan, 2700 morts, dernier bilan mais pas définitif. Les experts redoutent un chiffre bien plus élevé. La faille sismique se trouve en fait sous la zone la plus peuplée du pays. Des répliques peuvent avoir lieu, ce qui plonge la population dans une grande anxiété. Une minute de silence a été respectée aujourd'hui dans toute la Birmanie, deuil national jusqu'à ce dimanche. Rare moment de trêve dans la guerre civile que subit le pays depuis des années. Plusieurs groupes armés ethniques annoncent un cessez-le-feu humanitaire. En Haïti, 80 000 Haïtiens ont été expulsés de République dominicaine depuis le début de l'année, annoncent des autorités locales. Le président dominicain Luis Abinader a fait de ces expulsions son cheval de bataille. Il promet depuis octobre de renvoyer 10 000 Haïtiens par semaine. L'an dernier, c'est 180 000 de ces sans-papiers qui ont été expulsés. Pour rappel, Haïti et République dominicaine sont deux pays très inégaux en termes de richesse, mais ils cohabitent sur la même île. Mais un mur de 340 km de frontière a été construit par la République dominicaine entre les deux pays. Deal ou pas deal, Donald Trump s'apprête à imposer ce mercredi de nouveaux droits de douane à ses partenaires commerciaux. Les détails de ces mesures sont flous et le monde économique retient son souffle. En Europe, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, promet une riposte solide. Selon Vincent Vicard, spécialiste du commerce international, l'UE pourrait répondre avec une nouvelle série de tarifs, mais pourrait aussi utiliser d'autres leviers, au téléphone de Léonard Cochem.
La réaction de l'Union européenne, ça a été de mettre en place des mesures de représailles fortes, mais limitées. On a déjà vu sur l'acier et l'aluminium, où il y a eu 25% de droits de douane qui ont été annoncés le mois dernier, où la Commission européenne a annoncé des droits de douane sur un ensemble de produits de manière à viser la même valeur des importations que les produits qui étaient visés par les Américains. Voilà, à plus long terme, il y a d'autres questions qui se posent, notamment est-ce que... Le mieux, c'est de taxer uniquement, par exemple, les importations de biens. Il y a d'autres instruments qui sont à disposition de la Commission européenne pour éventuellement pouvoir toucher les importations de services ou les revenus des multinationales américaines de la tech sur le marché européen. Par exemple, on a évoqué une taxe sur les services numériques qui existe en France, qui pourrait être appliquée au niveau européen pour effectivement répondre à ces droits de douane américains.
Propos recueillis par Léonard Joachim. OpenAI, le concepteur de ChatGPT, le leader américain sur le marché de l'intelligence artificielle, s'apprête à lever 40 milliards de dollars, un nouveau tour de financement dirigé cette fois par la société japonaise SoftBank, qui valorise la start-up américaine à 300 milliards de dollars. Agnieszka Kumor.
Grâce à ce nouveau tour de table, le spécialiste de l'intelligence artificielle rejoint le groupe des entreprises privées les mieux valorisées, comme SpaceX, ByteDance, la société mère de TikTok, ou encore Stripe, la plateforme de paiement en ligne pour les professionnels. La société japonaise SoftBank, chargée du financement, prévoit de débourser 10 milliards de dollars dès la mi-avril, puis les 30 milliards restants en décembre. Un financement gigantesque donc, mais non sans condition, OpenAI devra devenir une société à but lucratif. En contrepartie, OpenAI s'engage à fournir des outils les plus puissants aux 500 millions de personnes qui utilisent ChatGPT chaque jour. Mais cette sophistication des outils, alors que la start-up s'apprête à devenir une entreprise classique, n'est pas sans risque, d'après les experts. Selon eux, OpenAI pourrait privilégier davantage les bénéfices à la fiabilité et la sécurité de ces programmes.
Agnieszka Kumor du service économie de RFI. Vous l'avez peut-être remarqué, Radio France Internationale est en grève depuis ce lundi, tout comme les autres médias publics français. Tous protestent contre une réforme de l'audiovisuel qui prévoit la création d'une structure commune pour chapeauter toutes les antennes. Ce mardi, le texte a été examiné à l'Assemblée nationale française avant d'être suspendu après des tensions à l'extérieur. Plusieurs centaines de salariés des médias publics étaient rassemblés pour contester ce projet de loi. Reportage Nour Mazourghi.
Tout dans ce projet n'est que pure idéologie.
Anne-Guy Épé, journaliste pour France Télévisions, veut croire à l'abandon de cette réforme qui, selon elle, va faire du mal au service public.
Derrière ce projet de holding, il y a la fusion, on le sait. Tout ça, c'est pour réaliser des économies et ça veut dire de moins bonnes conditions de travail, ça veut dire des gens à la retraite qui ne vont pas être remplacés. Mais mettre l'information du service public en coupe réglée, ça nous dérange beaucoup.
Sa crainte, une fusion des radios et des chaînes télévisées régionales du groupe. C'est pour ça que Danilo Comodi, journaliste pour une locale de la chaîne France 3, manifeste ce mardi.
C'est notre job de faire en sorte que cette loi ne soit pas votée. Et on a bon espoir parce que cette majorité n'est pas stable. Cette loi, elle est bancale et elle ne convainc personne parce qu'on ne la comprend pas à part économiquement. Elle repose sur pas grand-chose de fondamental.
Véronique Villa, journaliste pour Radio France, est un peu moins optimiste.
J'ai un petit espoir, tout petit, que peut-être elle va être abandonnée. Ça fait longtemps qu'on tourne autour du pot, qu'on essaye de réduire le personnel, de faire des économies sur le dos des médias publics, donc ça n'est qu'à chaque fois gagner du temps.
Ce n'est pas la première fois que les élus tentent de réformer l'audiovisuel public. Les députés voteront cette nouvelle proposition de réforme à compter du 10 avril.
C'est une application pour smartphone qui va faire son grand retour au Bénin. Yango, les taxis sur commande par le téléphone, est de nouveau autorisé dans le pays. Après 4 mois de suspension, le service a été suspendu faute d'autorisation des autorités. Ce service de VTC séduit une grande partie de la jeunesse africaine pour pallier le manque de transport public. Mais le fort développement de Yango suscite des frictions avec les taxis traditionnels. Du sport maintenant, demi-finale de Coupe de France, sueur froide pour le Paris Saint-Germain ce mardi soir face au petit club de Dunkerque qui joue en seconde division, mené 2-0 pendant la première mi-temps. Le PSG a finalement repris le dessus pour finir par s'imposer 4-2. Le club parisien va donc en finale. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez suivre toute l'actualité internationale sur notre site rfi.fr.